RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là comme chaque dimanche sur RMC, vous le savez, à la radio, pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Et puis dès le vendredi, sur le numérique, hein, à la fois la version audio qui vous attend en podcast, sur les principaux agrégateurs de podcasts, et puis en vidéo sur 01tv.com, sur la chaîne YouTube de 01tv, et puis sur la chaîne 01tv sur les box, hein, sur Freebox, sur SFR, Orange et sur Fransat. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va se poser la question, est-ce que les box télé, la bonne vieille box avec la bonne vieille télécommande, sont amenées à disparaître ? Je poserai la question tout à l'heure à Amélie Charnet, notre journaliste spécialisée à 01net.com dans les télécoms. Elle a enquêté sur le sujet. Et puis je vous rappelle que vous pouvez réagir bien sûr à toute l'actualité, à tous les sujets qu'on va évoquer dans ce club de la presse IT tout de suite, sur Twitter avec le hashtag DQJMM et puis la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Et d'ailleurs au passage, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook. Bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle. Et on commence donc par le club de la presse IT avec Frédéric Bianchi qui nous fait l'amitié d'être là. Bonjour, bonjour Frédéric, journaliste à BFM Business. Il n'a qu'un couloir à franchir pour être là dans ce studio. Merci Fred, ça va ?
T'as pas trop fait de sport ? Malheureusement, trop
rarement. Mais ça me fait plaisir. Et puis on voit qu'il travaille à BFM Business, en tout cas pour tous ceux qui sont à la télé. C'est le seul journaliste de 01net qui met la cravate. Et c'est normal, à BFM Business, ça fait partie un petit peu de la...
Exactement, on est sérieux, on parle d'économie.
De la patte. Sérieux. Emmanuel Paquet est là, bonjour Emmanuel.
Bonjour François.
Qui lui suit les codes de 01 et de l'Express, hein, le mode décontraction mais élégant. Emmanuel Paquet dans de l'Express pour commenter toute l'actualité de la semaine, et on va commencer par cette fonctionnalité plutôt sympa qu'on a détectée et qui arrive chez les géants, hein, de la SVOD, Emmanuel. À la fois chez Netflix, mais aussi cette semaine chez Amazon, ça s'appelle Watch Party.
Oui, alors l'idée, c'est ce qu'on appelle la télévision sociale. C'est en gros de pouvoir communiquer en même temps qu'on regarde des programmes avec des amis ou sa famille. Donc l'idée, là, c'est sur Amazon Prime Video, on peut se connecter jusqu'à 100 personnes pour pouvoir discuter d'un programme. Donc on lance un rendez-vous, tout le monde se connecte en simultané, et puis on peut chatter, discuter autour du programme qu'on est en train de visionner. Donc ça, c'est un serpent de mer un peu, hein, dans le paysage audiovisuel. Les chaînes de télévision françaises linéaires ont tenté ça à plusieurs reprises, de le faire sur Internet, puisque ça suscite plus d'engagement de la part des internautes et des spectateurs. Oui. Ils discutent autour des programmes, donc ça participe aussi à faire connaître les programmes, même à l'extérieur de la chaîne, en les diffusant, notamment en diffusant des discussions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Donc ça permet d'amplifier le message et d'amplifier la communication autour d'un programme. Et puis derrière, d'attirer des annonceurs, des nouveaux annonceurs, qui peuvent apparaître dans des fils de discussion, rebondir même sur des termes qui sont utilisés dans une discussion. Donc on voit que c'est tout un nouveau pan de publicité ciblée qui s'ouvre pour ces géants de l'audiovisuel, que ce soit les nouveaux, donc là en l'occurrence Amazon, puisque Netflix le fait également depuis un certain temps, et puis même les anciens, donc TF1, M6 et les autres, qui tentent de se lancer sur ce type de marché.
Est-ce que le confinement a accéléré un peu tout ça, Frédéric, Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah oui, ça, Netflix, je crois, a lancé le sien un peu pendant le confinement. Enfin, en tout cas, il y avait déjà des applications tierces. Netflix a voulu récupérer le bébé. Et effectivement, pendant le confinement, on était à la maison, on a regardé des tonnes de séries. Moi, j'ai passé trois mois à regarder, à éplucher Amazon Prime, Disney+, et consorts. Plus Disney+, c'était lancé au moment du confinement. Donc oui, c'est malin.
T'as révisé tout tes Disney, hein, je crois.
Oui, oui, oui. De Aladdin à Petite Sirène. Ouais, tout fait, Cendrillon. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est très important l'aspect social dans la consommation de programmes de contenu, mais on passe par les réseaux sociaux. On va sur Twitter, on va dire ouais, la nouvelle série machin, c'est génial, on met le hashtag qu'il faut bien, et après on est la communauté aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux, elle n'est pas forcément sur ces plateformes-là, donc ils cherchent, j'ai l'impression, à récupérer cette discussion des réseaux sociaux sur leur propre plateforme. Je ne suis pas certain que moi, demain, je vais aller sur le service d'Amazon ou le service de Netflix pour discuter avec mes copains, parce que donc, j'imagine que ce sont des gens, des amis qu'on connaît, on va les inviter avec une adresse, avec une URL. Je pense que je continuerai à en parler sur Twitter, parce que voilà, c'est là que sont les gens, ou sur Facebook, c'est là que sont les gens, c'est là qu'est la communauté. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment décoller. Ce type de service-là, c'est malin. Évidemment que c'est comme ça qu'aujourd'hui, qu'on génère de l'engagement, c'est la viralité, c'est des choses comme ça.
Le truc intéressant, si je puis me permettre de te couper, c'est que finalement, là, on regarde tous la même série au même moment. C'est ça la particularité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les 10, 20, 30, 40, 50 personnes appuient sur le bouton, ils voient la même chose en même temps. Oui. Ils peuvent réagir, par exemple, sur des scènes, sur des réactions, sur des dialogues, des choses comme ça, ce qu'on ne peut pas forcément faire sur Twitter, sauf sur la télé, on va dire, linéaire. Oui. Vous regardez The Voice, bah vous réagissez sur la robe du machin ou la prestation d'un tel. Là, on peut le faire tous en temps réel. L'idée, c'est vrai que Netflix et Amazon n'avaient pas ça.
Non. C'est vrai que l'idée, c'est de recréer de la linéarité, alors de la micro-linéarité.
Oui, la micro-linéarité, c'est ça qui est rigolo.
Mais c'est un peu ça, parce que c'est vrai, tu as raison, aujourd'hui, on commente beaucoup ce qu'on regarde à la télé sur les réseaux sociaux, mais c'est du direct. C'est The Voice, c'est Top Chef, les matchs de foot.
Ou BFM TV, si on regarde l'actu, des choses comme ça.
Exactement. Donc là, on va pouvoir le faire en direct avec des séries. Et c'est vrai qu'en général, sur les réseaux sociaux, c'est. Tu as vu tel épisode, la scène, truc, tout ça, mais c'est vrai qu'on commente pas en show, en live. Là, ça permettra de faire ça, effectivement. Ouais.
Rappelons que, évidemment, chaque spectateur est obligé d'être abonné au service. Hein. Bon. Il n'y a pas de secret, hein, ouais. C'est ça. Hein. Et à ton avis, il y a la publicité qui va arriver là-dessus. Franchement, déjà, on paye ses abonnements, on paye un abonnement à Netflix. On sait que la publicité Netflix est un sujet très tabou. Hein. Ils avaient essayé un moment de mettre des bandes-annonces, des choses comme ça.
Ils sont retournés en arrière, quand même.
Et puis, ils sont vite retournés en arrière parce que, franchement, les spectateurs. Voilà.
Les
spectateurs sont très vigilants.
Ils sont très vigilants, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Alors, effectivement, comme le disait Jean-Sébastien, il y a la contrepartie, c'est, on voit aujourd'hui sur Facebook, par exemple, Facebook Watch, qui est le service de visioconférence, enfin de vidéoconférence et de vidéo plus ou moins à la demande de Facebook, il y a déjà aujourd'hui des interactions avec les abonnés de Facebook. Donc, quand vous avez un de vos amis qui regarde quelque chose sur Facebook Watch, généralement, on vous le signale dans votre flux en disant « connectez-vous, vous pourrez aller le voir ». Donc, on voit qu'eux aussi s'y mettent. Il n'y a pas que Amazon et Netflix. Alors là, c'est sur du contenu gratuit, effectivement. Et c'est déjà en partie monétisé aujourd'hui un peu chez Facebook. Donc, on voit que c'est eux qui ont un peu ouvert cette brèche. C'est vrai que, comme tu le disais, Netflix aujourd'hui n'a pas de structure de régie de pub. Donc, et pour l'instant, on a toujours dit qu'ils ne feraient jamais de publicité. À l'inverse, Amazon, eux, ont une régie publicitaire qui est en train de devenir extrêmement importante. Ouais. Je vous rappelle juste ce qu'avait dit Jeff Bezos, hein, c'est de dire que quand aujourd'hui, il gagne un abonné sur Amazon Prime Video, il vend plus de paires de chaussures. Donc, si demain, on suit son raisonnement, on peut se dire qu'il serait légitime qu'Amazon pousse des publicités dans son fil Prime Amazon Video lorsque les gens regardent le même programme pour essayer de vendre des produits sur Amazon.
Et bien sûr.
Notamment le placement produit. Qui aujourd'hui commence à arriver sur ces plateformes. On l'a vu notamment sur des films Netflix, où le bouclage de certains budgets ont été faits grâce à ça. Notamment le dernier Michael Bay, dont j'ai oublié le nom, qui est sur Netflix, qui s'appelle 8.
C'est un film d'action.
Exactement, Michael Bay est un féru, par exemple, du placement produit. Oui. Il a mis beaucoup de marques à l'intérieur, marques de voitures, essentiellement. Et on peut se dire, demain, Amazon pourra faire de même, faire du placement produit dans certains contenus qu'il produit,
et
renvoyer sur Amazon, pour faire des actes d'achat, réaliser des actes d'achat de e-commerce.
Les rois du placement produit, c'est quand même Apple TV+. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les séries qui sont produites par Apple, il n'y en a aucun qui a un Android.
C'est
vraiment,
vrai.
Ils ont tous ou un iPhone, ou un iPad, ou un Mac.
Ou les trois.
Et alors, très souvent les trois, mais vous ne verrez jamais, et c'est d'ailleurs, ça me faisait la dernière fois, parce qu'il y a de très bonnes séries hein, sur Apple TV+, mais c'est quand même assez drôle de voir que tous les protagonistes, tous les acteurs, ont que des iPhones, quoi.
Oui.
Il n'y en a aucun qui
a Android. Le placement produit, je trouve que ces acteurs-là sont assez frileux quand même pour le moment avec ça, ils pourraient le faire très bien. Amazon, sur Amazon Prime, quand vous faites pause, par exemple, vous avez le nom des acteurs qui apparaît.
Oui, c'est vrai, c'est super bien fait ça.
C'est bien fait.
Intéressant.
On pourrait imaginer qu'il y a la marque le magasin pour acheter la table basse, qui est le téléphone. Non, mais
c'est
voilà,
ça,
ils pourraient le faire. Ils pourraient
exactement.
Le faire, c'est simplement abordé. Ils sont frileux parce que voilà, il ne faut pas non plus forcer. Hein. Et aujourd'hui, bon, voilà, mais ça pourrait arriver et c'est une source de business énorme. Amazon, je crois qu'aujourd'hui, ils réalisent 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la pub. C'est vraiment là qu'ils veulent se développer le plus. Et ils ont les services, ils ont les canaux. Ils peuvent très bien pousser effectivement la pub ciblée sur des produits comme ça.
Autre sujet, alors beaucoup plus localisé, hein. Là on s'adresse à tous nos amis qui nous regardent et qui sont parisiens, peut-être l'avez-vous remarqué, on le souhaite en tout cas, c'est la 4G qui est là dans les métros, alors ça c'est vraiment le serpent de mer, hein, si je puis dire, le serpent souterrain, ça fait des années qu'on nous promettait 100% de la couverture en 4G dans les métros, ça y est Emmanuel, on y est.
Oui, parce qu'il y a eu des problématiques d'ordre technique. C'est sûr que là, dans les métros, on est dans ce qu'on appelle de l'indoor, voire du deep indoor, hein, c'est-à-dire on est profondément... on est encerclé de murs, etc. Donc les ondes passent difficilement. Donc il faut faire un autre réseau. En tout cas, il faut densifier le réseau existant. Donc ça demande des autorisations de la part de la RATP, donc ce qui a été fait. Et puis le déploiement par les opérateurs télécoms. Donc ça a pris pas mal de temps. Mais aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, ça y est, ça fonctionne. Il y a de la 4G dans le métro. Là, il n'y a pas eu trop de gens qui sont plaints, puisqu'aujourd'hui, on voit aussi que beaucoup de gens se plaignent du déploiement d'antennes à droite à gauche. C'est quasiment un nouveau réseau souterrain qui a été
fait. Oui, c'est vrai, oui, bien sûr.
Et là, c'est vrai que ça ne fait pas trop réagir, alors qu'on peut se dire qu'il y aurait eu de quoi, parce que là, on est dans un endroit confiné, voilà, avec des ondes qui se baladent un peu partout. On n'est pas comme à l'air libre, comme nous actuellement. Donc, ça aurait pu susciter justement des vagues de protestation. Ça n'a pas été le cas, étonnamment. Donc, on voulait arriver sur d'autres choses.
Après, les puissances d'émission sont infinitésimales.
Hein,
c'est-à-dire que c'est comme, par exemple, maintenant, vous avez du Wi-Fi dans les avions, par exemple.
Oui.
Ce sont des doses de Wi-Fi qui sont vraiment très, 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 très faibles. Parce que, comme on est dans un endroit confiné, on n'a pas besoin d'émettre à pleine puissance.
Alors, effectivement, tu as raison. Sauf que ce qui fait émettre le plus un téléphone, sans vouloir rentrer dans la technique, c'est quand vous décrochez d'une cellule et que vous raccrochez une autre cellule. Et donc, ce qui fait qu'un téléphone...
Et le micro bouge.
Et que le micro bouge, voilà. Et là, le fait est qu'un téléphone va chercher à s'accrocher tout le temps à une cellule, surtout quand vous êtes dans un métro ou une rame de RER, où là, vous bougez assez vite, donc vous pouvez décrocher une cellule et votre téléphone va tout de suite essayer d'en accrocher une autre. Donc, c'est là, en fait, où il y a le plus d'émissions. Donc, il y aurait eu... Enfin, moi, de mon point de vue, on aurait pu penser qu'il y a eu des contestations, il n'y en a pas eu. Bon, bah, tant mieux. Et puis, en l'occurrence, ça fonctionne plutôt très bien.
Fred, un truc à rajouter sur la 4G dans le métro ?
Oui, il y a juste des chiffres, hein, parce que c'est vrai qu'on nous l'avait annoncé en 2013, ça va arriver en 2015, puis en 2017, puis bon, finalement, c'est 2020. Alors bon, on a un peu râlé en disant la RATP, c'est des nuls, les opérateurs, ils savent pas tout ça, mais c'est vrai que c'est des chantiers très compliqués. C'est 300 km de câbles, c'est 3000 antennes, comme tu disais justement, on passe d'une antenne à l'autre, il faut énormément d'antennes, il faut réfrigérer tous ces locaux dans lesquels on installe les antennes et les installations.
Alors que les locaux ne sont pas étudiés pour, hein, ce sont des vieux locaux qui datent de l'époque de la création du métro.
Qui ont 120 ans, c'est des chantiers difficiles. C'est intéressant ce que dit Emmanuel aussi sur le fait que ça n'avait pas suscité de critiques ou d'opprobre autour de les ondes, pas les ondes. On voit finalement sur tous les sujets, on a un peu deux casquettes tous. On a le citoyen qui a peur, hein, qui a peur sur des questions sanitaires, parfois justifiées d'ailleurs.
Et après, parfois injustifiées aussi.
Et souvent injustifiées aussi, évidemment. Beaucoup de fausses informations qui circulent et de peurs un peu irrationnelles comme ça. Et puis après, il y a l'autre casquette, qui est la casquette du consommateur, où là, on se dit, je veux la 5G, je veux mes ondes, je veux ma box, je veux mon truc. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu pris dans ce nœud de contradiction, où on veut la technologie, mais on en a peur. On veut le téléphone, mais attention aux ondes. Et là... sur la 4G, parce qu'elle a été déployée progressivement, et ça fait un petit moment, en tout cas moi sur mes lignes, que j'ai déjà de la 4G. Donc on s'y est habitué, et c'est vrai qu'on peut être optimiste et penser que finalement, les gens voyant que
c'est peut-être les usages qui vont gagner,
voyant qu'il n'y a pas vraiment de risque. Alors après, c'est difficile de mesurer un risque autour de ces ondes-là, mais bon, le discours... qui rassure un peu en disant il n'y a aucune étude qui montre que les ondes 4G ou les ondes 5G ont des effets néfastes sur la santé, ça finit peut-être un peu par passer. Il faut du temps, mais on arrive à passer ces étapes-là.
Mais justement, c'est peut-être la bonne transition sur tout ce qui se passe concernant la 5G. Vous savez que la 5G elle est dans les starting blocks, les opérateurs prépare l'arrivée de cette nouvelle technologie qui se veut être vraiment une technologie de rupture qui permettrait en fait d'avoir des débits dignes de la fibre optique finalement quasi partout. Alors évidemment il va falloir créer un réseau, mais c'est le cas. Malgré tout, il y a une fronde contre la 4G, Emmanuel.
Hein, 5G.
On voit. 5G, pardon.
La 4G était beaucoup mieux passée.
Oui, c'est vrai.
Malgré tout, alors juste petite parenthèse concernant la 4G, je vous rappelle qu'il y a plein d'antennes qui sont brûlées.
Exactement.
Et c'est pas de la 5G.
Non.
C'est de la 4G. Donc il y a malgré tout une fronde aussi d'une manière générale sur les ondes et sur le progrès en quelque sorte. Parce que, et juste une petite parenthèse pour vous raconter une petite anecdote, un opérateur un jour m'avait confié que suite à la dégradation d'une antenne dans un village, en fait, les gens étaient hyper contents parce qu'ils n'avaient plus une antenne sous leur toit. Mais en fait, ils captaient toujours de la 4G, mais c'était une antenne qui était beaucoup plus éloignée, et finalement, ils étaient encore plus en phase d'onde puissante, parce qu'il faut savoir que quand vous n'avez pas un émetteur à proximité, votre téléphone va essayer de capter une 4G qui va être beaucoup plus éloignée, et c'est à ce moment-là que ça peut être potentiellement dangereux, parce que votre téléphone, en fait, va émettre un maximum d'ondes pour capter une antenne qui est très loin. C'est ça le paradoxe, finalement.
Ouais.
Mais enfin bon, on referme la parenthèse. Sur la 5G, cette fronde, elle est légitime ou pas, messieurs ?
Alors, moi, je...
Non. On va dire non. Après, la fronde, elle est légitime ou pas. On voit qu'aujourd'hui, il y a des frondes sur à peu près tout. Hein. On est en opposition par rapport à ce qui... On a l'impression qu'on nous impose. Hein. Il y avait le contre.
Oui, bien sûr. Oui, c'est une opposition quasi systématique.
Les 80 km/h, si on veut sortir de la tech. Donc, vraiment, tout ce qui vient d'en haut, il y a toujours, grâce à Internet, avec des groupes qui se fédèrent ou des choses comme ça, on veut pas. On veut pas, et puis ça peut prendre des formes un peu extrêmes où on va incendier des installations.
Bien sûr.
Voilà. Là, aujourd'hui, avec la 5G, la nouveauté, c'est qu'il y a eu la vague verte qui vous a pas échappé au municipal la semaine dernière, dimanche dernier.
Avec de grandes villes qui sont passées...
De nombreuses grandes villes qui sont passées écologistes. Et il y a des maires qui ont fait quelques sorties comme ça, Bordeaux, Besançon, il me semble Nantes, où ils disent, bon, bah, la 5G, faut voir, c'est dangereux, il faut mesurer, un moratoire, voilà, et on commence. Donc, ce discours qui venait de la base commence à être repris par des autorités politiques, alors qu'ils n'ont pas de pouvoir là-dessus. Hein. On s'est renseigné, on a regardé. Non, un maire, tout comme Linky d'ailleurs
bien
à l'époque,
sûr,
ne peut pas bloquer une installation 5G. Il peut éventuellement le faire de manière momentanée. Les opérateurs vont attaquer et ils auront gain de cause.
Oui, mais c'est un relais d'opinion important, c'est ça le problème.
Oui. Ils peuvent freiner l'expansion là. La question est, est-ce qu'ils tiendront derrière un discours rationnel et raisonnable quand ils auront pris connaissance des études, et il y en a des quantités colossales hein, qui montrent que non, les ondes de la 5G, elles ne sont pas plus dangereuses que les ondes de la 4G, et elles sont même beaucoup moins intenses que celles du micro-ondes ou que celles du fer à repasser, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, mais il faut rassurer, il faut faire de la pédagogie beaucoup là-dessus. Et commencer son mandat en disant on va voir ce que c'est peut-être dangereux, moi j'y tiens pas plus que ça.
Mais est-ce que c'est pas aussi c'est une posture forcément... de la part de ces politiques pour faire plaisir à tous ceux qui ont voté pour eux?
Évidemment, oui. Il y a une forme de démagogie aussi là-dedans. Mais après, il faut pas rejeter non plus ces discours anti-5G, anti-nouvelles technologies. Il faut expliquer. Il faut dire non, vous ne vous inquiétez pas, il y aura des études, on va mesurer, et puis si c'est vraiment dangereux, on prendra nos précautions.
C'est Stéphane Richard, le patron d'Orange, qui a dit, écoutez, si la 5G ça plaît pas, on attendra. Hein.
Oui.
En gros, c'est ce qu'il a dit. Ouais, bon, après, c'est un discours peut-être.
Oui, ça aussi, c'est un peu de pour rassurer, quoi. Disons, en tout cas, de dire, on entend,
mais
on écoute.
Voilà, on n'ira pas contre la volonté des Français, en quelque sorte.
Oui. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un double sujet. Il y a un sujet politique où il y a manifestement une erreur politique. C'est-à-dire, on peut pas lancer une nouvelle génération de téléphonie mobile et dire, on aura les résultats de santé de l'ANSES, donc l'organisation de santé, au premier semestre 2021. Donc on lance avant d'avoir les résultats d'études de santé. Ça, politiquement, déjà...
Ça sera le début du lancement.
Ça sera le début du lancement.
Mi-2021, il n'y aura pas beaucoup de zones couvertes
par 5G. Vu le contexte où les gens ont peur...
C'est très sensible.
C'est quand même politiquement une erreur de dire on va vous expliquer qu'il n'y a pas de problème, mais on le fera après le lancement. Il y a quand même, on met un peu la charge devant les bœufs, quoi. Donc politiquement, pour moi, déjà, il y a une erreur au niveau du gouvernement.
Oui, une erreur de timing.
L'autre, c'est technologiquement, il y a quand même... Disons deux éléments sur lesquels aujourd'hui s'appuie la contestation. La première, c'est la consommation énergétique. Est-ce que ça consomme plus ou moins que la 4G? Là, en fait, les opérateurs disent que ça consomme moins à data équivalente.
Oui.
Et les écolos disent non, ça va consommer beaucoup plus, mais sans dire si c'est à data équivalente, à consommation de data équivalente, puisqu'on voit une explosion de la consommation des données qui arrive avec la 5G.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on compare deux émetteurs, un 4G et un 5G, l'émetteur 5G va consommer moins à data équivalente.
A priori, voilà,
c'est ça. Forcément, quand on va passer à la 5G, on va beaucoup plus consommer de data. Donc forcément, il consommera plus.
Voilà, donc la question est de savoir est-ce qu'on mélange pas des choux, des carottes, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point technologique qui pose problème et qui a suscité justement des forts débats, et pas qu'en France, mais aussi en Suisse, c'est une particularité de la 5G qui s'appelle le beamforming. Le beamforming, c'est que l'antenne vous vise. Aujourd'hui, quand vous êtes sous une antenne 3G ou 4G, c'est comme un parasol ou un parapluie, ça couvre tout le monde de manière indifférente. Dans la 5G, l'antenne va viser, va reconnaître les antennes, les terminaux 5G, va les viser directement. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une communication automatique et assez forte entre l'antenne et le terminal. Et donc là, on peut se dire, effectivement, intuitivement, sans être « bah ouais, mais est-ce que ça pose pas un peu plus de problèmes ?» D'ailleurs, Soriano, donc le président de l'ARCEP lui-même, avait dit « oui, mais là, ça va être une exposition choisie. » C'est-à-dire que les gens qui auront des terminaux 5G vont savoir qu'ils sont visés par l'antenne. Bon, ça se discute. Mais là aussi, pour moi, il y a eu un problème de pédagogie et d'explication. Donc sur ces deux points-là, consommation énergétique et puis le beamforming promis par la 5G, il aurait fallu quand même beaucoup plus d'exploitation.
L'Agence nationale des fréquences, elle dit que justement, en ciblant les terminaux, on inonde moins d'ondes l'environnement.
Exactement, parce que
du coup, on a des intensités d'ondes moins importantes que sur la 4G.
Exactement.
Enfin, en tout cas, ce que dit la NFR.
Rappelons par exemple que dans une zone où il y a peu de personnes qui sont connectées, eh bien l'émetteur va être quasi en veille en fait. Il va se réveiller lorsque un terminal rentrera
dans sa zone.
Oui. Et là, il donnera sa puissance vers ce terminal.
Exactement.
Mais c'est ça aussi la force de la 5G, c'est que si la cellule,
c'est l'intelligence, ouais.
si la cellule n'est pas sollicitée par des terminaux, elle va se mettre en veille et
exactement.
Là,
et
elle va consommer moins et puis elle émettra moins d'ondes.
Exactement.
Donc c'est bizarre.
Pourquoi il n'y a pas eu une explication?
Et puis, attendez, messieurs, il y a quand même toutes les fake news. À l'époque du Covid-19, exactement. On nous disait que la 5G était porteuse de Covid.
Était porteuse du Covid.
Enfin, même
oui.
la 4G, ouais. je veux dire.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et ça
ouais.
circule sur les réseaux. Il y a des gens qui y croient. Mm. C'est ça qui est complètement ouais. incroyable.
Oui, évidemment, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent là-dessus. Dernier point aussi sur la 5G, quand même, c'est la 5G, pourquoi faire? Là, ça peut être un argument qui peut être entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une bonne 4G, en tout cas pour des usages grand public, ça nous suffit largement. On peut regarder des films, on peut écouter de la musique, on peut faire des choses comme ça. Aujourd'hui, on a un peu du mal à voir les vraies applications 5G. Certes. Qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait penser d'ailleurs qu'on ne téléchargera pas forcément plus, on aura simplement les choses plus vite, mais aujourd'hui, de la 5G, en dehors des usages professionnels, industriels,
oui,
on
qui
voit
sont
pas
peut-être
trop
un peu
les
flou.
Voitures autonomes, des choses comme ça, mais qui ne sont
sûr.
Pas très précises.
Pour l'opinion, c'est flou
voilà.
tout ça.
Donc c'est vrai que l'opinion qui peut y être réfractaire dit, bon, on nous amène une nouvelle technologie qui pourrait consommer plus de data, dont on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, voilà, pourquoi y aller? Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, et c'est ce qu'a dit Martin Bouygues, lui, il freine un petit peu des cas de fer aussi, parce que les enchères sont chères, les opérateurs, ils n'ont pas forcément envie de faire des gros chèques aujourd'hui, ils n'ont plus forcément les marges financières qu'ils avaient fut un temps. Et donc, si on prend du retard sur cette technologie-là, quand les usages arriveront, ils arriveront certainement, hein, la nature horreur du vide, hein, quand on propose un service, on aura certainement des services équivalents. Si on prend du retard, nous, la France, aujourd'hui, là-dessus, on risque de ne jamais le rattraper dans les années à venir. Comme on voit, l'Europe était numéro un sur le GSM dans les années 2000, on a pris après du retard sur la 3G, la 4G, et aujourd'hui, on n'est plus,
plus
en pointe sur ces technologies-là.
Dans les zones urbaines, viendra soulager la 4G. Hein. Je vous rappelle qu'il y a certaines zones, déjà dans la région parisienne, où la 4G est saturée, hein, parce qu'il y a tout le monde essaie de se connecter en même temps. Vous allez à la Défense à des heures de pointe, il y a des endroits où vous avez du mal à surfer sur Internet.
Ça va servir de réseau de délestage, en fait.
Et la 5G va donner un ballon d'oxygène. Oui. Donc elle est là aussi parce que les limitations de la 4G arrivent à certains endroits. On change carrément de sujet avec la cyber-haine. Vous avez sans doute remarqué que les grands annonceurs publicitaires ont décidé de boycotter Facebook. C'est quand même une histoire incroyable. Parce que Facebook, en ce moment, a une très mauvaise image suite aux propos de Mark Zuckerberg concernant la censure.
Modération.
Oui, la non-censure, en fait, des propos de Donald Trump. Des annonceurs comme Coca-Cola ont dit « Stop, on arrête maintenant ». De financer Facebook et de faire de la pub sur Facebook.
Exactement. Alors, ça a débuté en fait par un appel de la société civile. C'est ça aussi qui est un peu fort. Hein. C'est-à-dire que nous, en France, on a fait une loi Avia qui était censée lutter contre la cyber-haine, qui n'est pas passée au niveau Conseil constitutionnel et en fait ne verra jamais le jour. Donc, 2 ans de débat, une loi qui a mis du temps et pour finalement rien. Et là, on voit la société civile américaine qui, au mois de juin, dit on lance un grand programme Stop Hate for Profit, donc on arrête les profits de la haine, les bénéfices de la haine, avec la fondation Mozilla qui est derrière, plusieurs associations de défense des libertés et de lutte contre le racisme. Et là, on voit 100 marques, 200 marques, 300 marques. Aujourd'hui, on est à 400 marques, notamment des grandes marques européennes aussi, hein, Volkswagen, il y a Lego, SAP, donc des grandes marques qui commencent à se mettre dans cette mouvance pour arrêter à minima au mois de juillet, de faire de la communication et de la publicité sur Facebook, mais aussi sur les autres réseaux sociaux, tant qu'ils n'ont pas pris les mesures adéquates pour éviter la circulation des propos haineux ou racistes qu'il peut y avoir sur les plateformes. Et on voit que tout de suite, Zuckerberg, Facebook a réagi en commençant à prendre quelques petites mesures. Alors, ce sont encore des petites mesures, hein, parce qu'il faut savoir que, par exemple, les 100 plus grands annonceurs de Facebook ne représentent que 6% du chiffre d'affaires des 70 milliards. Donc, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus d'annonceurs qui se désistent pour qu'il y ait un vrai impact sur Facebook. Mais en tout cas, on voit que la société civile a fait bouger en 2 semaines, 3 semaines,
bien sûr,
beaucoup plus Facebook que nous, nos députés français. Donc, c'est quand même à saluer. Hein,
puis on voit que dès qu'on touche au porte-monnaie de Mark Zuckerberg et de Facebook, là, il réagit. Alors, comment il ne réagissait pas, hein, Frédéric?
Oui, c'est des sujets quand même assez difficiles où il y a pas le méchant Zuckerberg, les gentils annonceurs ou la gentille. C'est compliqué. Zuckerberg, lui, il se dit, il marche sur deux pieds, le business et mes utilisateurs. Si j'arrive et que je dis je vais censurer tel propos, sur quels critères, pourquoi, je perds des utilisateurs. Si je ne censure pas, aujourd'hui, si je ne modère pas, aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il perd des annonceurs. Alors, les annonceurs, comme disait Emmanuel, ce n'est pas très grave parce qu'il en a tellement. Facebook repose sur une base de petits annonceurs colossaux qui lui font son business. Donc là, aujourd'hui, il bouge un peu parce qu'il se dit ça peut faire effet boule de neige, ça. Hein. C'est des grosses marques, elles ne veulent pas être associées à ça. On est aussi dans un contexte politique important aux États-Unis avec les élections américaines. Ça s'inscrit là-dedans. Ce serait arrivé l'année dernière. Peut-être que les marques n'auraient pas voulu se désengager de tout ça. Mais on sent que ça commence à bouger. On sent que ça commence à bouger, que les marques ne veulent plus être forcément associées à ce contenu un peu poubelle qu'on trouve sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Vous savez que les marques, elles sont dans les médias, à côté d'articles, de reportages, des choses un peu valorisantes. Là, aujourd'hui,
et s'associer à du contenu anxiogène pour Coca-Cola, ce n'est pas une bonne idée.
Oui,
quoi.
Oui, elles se retrouvent sur du anxiogène, sur du trash, sur de la fake news, sur des choses comme ça. Et être quand on a la pub Coca-Cola à côté d'un message qui dit attention, la 5G transmet le coronavirus, je peux comprendre que je suis Coca-Cola, ça me plaît pas trop.
Ouais, ça me plaît pas trop.
Après, sur ces histoires de modération, moi, je suis un peu fataliste. Moi, je pense que à partir du moment où on donne la parole à 2,3 milliards d'individus sur la planète, est-ce qu'on peut modérer tout ça? Est-ce que, ou alors on décide de censurer
Zuckerberg a enfanté d'un monstre qu'on ne peut pas gérer.
Zuckerberg et tous les autres, même sur Twitter, c'est difficile de contrôler la parole des gens. Qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Alors, il y a les fake news énormes, c'est facile, mais il y a plein de choses qui sont dans l'entre-deux. Qu'est-ce que c'est qu'un propos haineux? Est-ce que dire je suis contre l'immigration, est-ce que c'est haineux? Est-ce que c'est raciste? C'est difficile. Je comprends la difficulté qu'a aujourd'hui un Zuckerberg, qu'on charge, on lui dit vous devriez. Alors, quand c'est des choses un peu extrêmes de Trump, oui, maintenant il s'y est mis, ils vont signaler ces propos comme le faisait Twitter. Mais dans la masse, je pense que, et on l'a vu avec la loi Avia, il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est que ça peut passer par l'éducation dès la petite enfance, de respecter l'autre, de ne pas être trop virulent.
Prendre conscience de la dangerosité des réseaux sociaux, en fait, et de réfléchir avant d'écrire quelque chose.
Mais c'est très difficile, et là, on est sur un chantier dont je pense qu'il n'y aura jamais de fin.
En revanche, là, c'est la fin de notre club de la presse. Donc, vous voyez comme quoi. Hein. Merci à tous les deux. Merci à Frédéric Bianchi de BFM Business d'être venu. C'est toujours un plaisir, Frédéric, de t'avoir. Et puis, Emmanuel Paquette, fidèle à De Quoi Je Me Mêle, journaliste à L'Express. Vous restez avec nous. Est-ce que les box télé sont condamnés à disparaître? Amélie Charnay, journaliste à 0net.com, a enquêté. On va essayer de répondre à cette question dans un instant avec elle. À tout de suite.
RMC, 01TV, François Sorel, De Quoi Je Me Mêle.
Le retour de quoi je me mail, le dimanche matin à la radio sur RMC, vous le savez, 01tv.com, en vidéo, sur la chaîne YouTube 01tv et puis sur les box aussi. 01tv sur les box SFR Orange, Freebox et Fransat depuis quelques temps. Merci d'être là. On va évoquer maintenant eh bien, peut-être le futur de notre télévision. Vous savez que la télé aujourd'hui, pour la recevoir, on a trois moyens. Il y a la TNT, il y a l'IPTV, ce qu'on appelle en fait les box, hein, et puis aussi tout ce qui est OTT, c'est-à-dire par exemple l'Apple TV ou si vous avez une télé Android, ce genre de choses. Molotov, par exemple. Eh bien, tout ça est en train de se bouleverser, de changer. On est en train de peut-être rebattre les cartes de la manière de regarder la télévision et on va en parler avec mon invité. C'est Amélie Charnay qui est là. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Journaliste à 01net.com. Amélie qui est spécialiste, entre autres, des télécoms chez nous à la rédaction de 01net. Et Amélie a fait un papier que je vous conseille d'ailleurs de retrouver et de lire sur 01net qui nous pose cette question. Est-ce que c'est la fin des box télé que l'on connaît avec la bonne vieille télécommande? Amélie, c'est un vrai débat hein, qui est un peu un serpent de mer. Ça fait des années qu'on en parle, mais là, on va rentrer un petit peu dans les détails. Mais avant de détailler tout ça, peut-être expliquer à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'il y a en fait aujourd'hui trois moyens de recevoir la télévision en France.
Oui, alors on a la bonne vieille, j'allais dire TNT. En fait, c'est ce qu'on appelle la boucle radio. Voilà, donc on a une antenne, soit dans le téléviseur directement, soit sur les vieilles antennes râteau hein, sur le toit. On se souvient tous de ça. Donc on capte, c'est le moyen avec lequel les gens captent le plus la télévision en France. qui assure la meilleure couverture, mais on peut aussi avoir...
Et qui est gratuit, qui est totalement gratuit.
Voilà, totalement gratuit.
Il suffit d'avoir une télé, une antenne,
exactement.
Et vous avez une trentaine de chaînes gratuites via la TNT.
Ça reste limité à quelques chaînes. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'IPTV. Alors là, c'est géré directement et exclusivement par les opérateurs. Et donc, il faut souscrire à un abonnement, avoir une box TV, un décodeur TV pour y avoir accès. Donc, ça passe par Internet et c'est quand même une garantie de qualité parce que l'opérateur va gérer de façon prioritaire ses flux vidéo. Donc, on est assuré d'avoir quand même une super connexion, un super accès. Et avec, alors là, on a la plupart du temps plus de 200 chaînes.
Voilà. En fait, les chaînes sont illimitées, en quelque sorte.
Exactement.
On peut avoir les chaînes qu'on veut.
On a plein de services enrichis, donc l'enregistrement, le replay, le contrôle du direct.
Bien sûr. Oui, parce qu'on est connecté à Internet, là.
Exactement.
C'est la différence de la TNT qui est du broadcast. Et voilà. C'est un peu comme un décodeur, en quelque sorte, que vous branchez sur votre télé, qui vous permet d'avoir toutes les chaînes que vous voulez. Et puis. Le tout dernier, le tout nouveau,
Le dernier arrivé maintenant depuis quelques années quand même, c'est l'OTT, donc ça veut dire over the top. Donc là, pour le coup, on peut accéder sans passer par un opérateur à tous les services qu'on veut. Mais alors, si on est sur sa télévision, il faut quand même que la télé soit connectée ou alors qu'on ait un appareil qui permette de se connecter. Et on peut aussi le regarder sur son smartphone ou sur sa télévision, ça passe par le web. Donc ça va être tout simplement une application ou un site. Voilà, si on prend l'exemple de Netflix ou de Molotov, on est libre d'aller dessus, de se connecter dessus. Très simplement.
Voilà, donc les téléconnectés, il y en a de plus en plus. Il y a un boom des téléconnectés aujourd'hui. Il y a encore quelques années, personne ne connectait sa télé. Si elle était connectée, maintenant tout le monde le fait.
Alors on peut considérer que la télé est connectée avec le décodeur.
Oui.
Alors, et juste, je voulais rappeler ce chiffre, il y a 80% des gens en France qui ont une télé qui ont une box TV avec leur opérateur.
Toujours.
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme.
Oui, on voit qu'il y a quand même la suprématie de la box télé.
Tout à fait.
La box télé IPTV, donc qui est liée à un opérateur. Et la chose, c'est que finalement, pendant des années, la TNT était majoritaire. C'était vraiment le moyen de diffusion le plus utilisé, qui était le plus simple. Petit à petit, la box pris le dessus, la box télé, donc l'IPTV. Et puis donc là, petit à petit, il y a l'OTT qui arrive, qui monte en puissance. Est-ce qu'on sait à peu près quelle est l'audience en fait de chaque technologie? On a une idée ou pas aujourd'hui?
Alors, ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui ont une box TV ont la TNT. En fait, tout le monde a un peu les trois. Donc du coup, dans les chiffres, il y a redondance. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut quand même un minimum de connexion, de qualité de connexion Internet pour avoir une box TV. Donc, il y a une minorité, plutôt dans les zones rurales en France, de gens qui ne pourront pas passer par la box TV. Donc, eux, ils sont obligés soit de passer par le satellite, soit
par la TNT.
Mais on va dire que globalement, 80% des foyers utilisent leur décodeur TV. Et ce qui est drôle, c'est que je crois que c'est 89% des gens qui utilisent les services OTT passent par leur box TV, en fait.
C'est ça qui est dingue.
Donc, quand on regarde Netflix en France, c'est prioritairement par la box TV. C'est
oui, parce que sur les box TV, il y a Netflix aussi, maintenant.
Exactement.
On voit que les opérateurs ont compris et sont agiles là-dessus. On a peut-être oublié le satellite, tu as raison. C'est vrai qu'il y a la TNT, donc l'IPTV, l'OTT, mais aussi le satellite qui permet n'importe où, on peut être tout en haut d'une montagne, ne pas avoir de TNT, ne pas avoir de connexion Internet et de regarder la télévision. Hein, c'est un moyen qui, dans les zones rurales, est encore très utilisé. La question que tu t'es posée sur ton article sur 01net, pourquoi se poser la question? Pourquoi se dire que finalement, on vit peut-être la fin des box télé?
Alors, y a une actualité tout simplement commerciale de Bouygues Télécom. Il y a quelques semaines, il a lancé une offre triple play. Alors, le triple play, je rappelle ce que c'est rapidement, c'est un accès à Internet, à la télévision et au téléphone. Et pour la première fois, donc on a ce modèle-là depuis presque 20 ans. Mm-hmm. C'est Free qui l'a inventé en 2003, en fait, quand même. Donc, tous les opérateurs proposent ce modèle. Et pour la première fois dans ce modèle d'accès, il n'y avait pas de décodeur TV à la place, mais quand même un accès à la télévision. Alors, ça veut dire qu'il y avait une appli qui s'appelle BTV, qui est préinstallée sur une télé connectée de Samsung, une Smart TV. Et donc, on passe par cette télé et par cette application pour accéder à tous les services enrichis de l'opérateur.
D'accord. Ça veut dire que, finalement, plus besoin de boîte sous la télé.
C'est
d'accord.
Ça.
À partir du moment où on achète une télévision qui est compatible, et évidemment, Bouygues a passé un accord avec Samsung, le constructeur de télé, pour implémenter cette application. En cliquant donc sur l'application et avoir préalablement branché en fait ma télévision sur la box réseau, parce que on expliquera tout à l'heure qu'il faut toujours deux boxes, il faut toujours une box réseau. Et bien là, je me retrouve avec toutes les chaînes parce que l'appli est sur la télé, préinstallée, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Et d'après ce que j'ai compris, même ceux qui ne sont pas chez Bouygues et qui achètent cette Smart TV, c'est ce que disait Bouygues, vont se retrouver avec cette application préinstallée. Bon, alors après, il faut quand même être chez l'opérateur pour pouvoir l'ouvrir et s'identifier. Hein.
D'accord. Et on se retrouve avec les chaînes qu'on a sur la box. Est-ce que ça remplace vraiment une box ? Télé.
Alors, moi, je ne l'ai pas prise en main, donc je ne pourrais pas m'avancer sur l'expérience. Est-ce que c'est au niveau d'une expérience avec une box physique ?
Mais d'après ce que j'ai compris, il y a certaines limitations quand même.
Peut-être
hein.
Au niveau du nombre de chaînes et de quelques services. Mais c'est à terme... Alors, l'application, ce n'est pas une innovation technologique, c'est plutôt une innovation commerciale parce que c'était déjà possible via l'Apple TV de le faire, d'accéder à cette application que Bouygues a développée déjà depuis plusieurs années.
Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a d'autres opérateurs, je crois, qui ont des applications de ce genre.
Oui, mais elles ne sont pas disponibles sur les Smart TV. Donc Orange, par exemple, oui. Avec Soch, propose, et même avec Orange, une application télé. On peut, quand on est en vacances, se connecter au service télé d'Orange sur son
bien
smartphone, mais pas sur une télé connectée. SFR fait la même chose.
Et avec SFR Play, justement, oui. Si vous avez une télé Android, vous pouvez installer l'application SFR Play. Vous vous loguez avec votre login et votre mot de passe et vous vous retrouvez avec toutes les chaînes que vous avez.
Et on peut enregistrer à distance aussi.
Voilà, les chaînes en direct, mais aussi le replay, etc. Et tous nos abonnements, ça c'est plutôt sympa. Donc on voit que malgré tout, les opérateurs arrivent sur l'OTT, mais malgré tout, veulent garder leur box, sauf Bouygues, hein, qui là, c'est une rupture en fait. C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire que Bouygues, dans quelques années, va peut-être s'affranchir totalement de box télé ?
Alors, je leur ai posé la question. Ils disent non, pas du tout. Pour le moment, on veut proposer les deux et on continuera à proposer les deux parce qu'on sait très bien que, pour l'instant, ça ne touche pas une majeure partie du public. Les gens veulent continuer à vouloir une box TV. On l'a dit tout à l'heure, hein, 80% des gens qui ont une télé utilisent le décodeur de leur opérateur. Donc, symboliquement, c'est un geste fort. D'ici à ce que les box disparaissent, je pense qu'il va se passer de longues années. Et d'autant plus qu'il y a quand même encore des avantages à avoir cette box. Par exemple, si on prend la facture, c'est quand même hyper pratique et rassurant parce que l'opérateur fait un peu figure de tiers de confiance, de souscrire à une chaîne payante ou à Netflix via son opérateur. Plutôt que de multiplier tous les abonnements, vous avez tout qui est centralisé sur cette facture. Et ensuite, c'est dans les habitudes.
Ça, finalement, c'est peut-être intéressant pour l'opérateur, mais pour l'utilisateur... Souscrire un abonnement sur Netflix, tu vas sur le site, aujourd'hui ça va très vite.
Oui, mais il gagne en lisibilité, il voit très clairement.
Oui.
Bon, pour quelqu'un qui ne serait pas geek, on va dire, qui n'a pas envie de se prendre la tête et qui a encore une fois confiance en son opérateur, il a tout de réuni sur une seule facture et puis il a peut-être encore envie de faire encore une fois le contrôle du direct ou d'enregistrer. Parce que par exemple, Molotov, c'est payant d'enregistrer un programme. Donc, on n'a pas tout à fait l'équivalent de ces services enrichis des opérateurs aujourd'hui en service OTT.
Un mot sur Molotov, justement, qui a mis un pied dans la mare quand même, hein, avec ce service qui est sorti il y a 4-5 ans, qui permet en fait, là vraiment, si on a une télé connectée, de se substituer à une box. Hein. Moi, je connais plein de gens qui ont débranché leur box parce qu'ils ont installé Molotov et qui se sont retrouvés avec les basiques, hein, les chaînes de la TNT qui passent directement en OTT.
Ouais. Moi, je m'en sers comme box de second écran, en fait.
Hein. Voilà,
sur mon ordinateur,
dans
ma chambre, en fait, j'ai juste Molotov quand je veux regarder un programme audiovisuel. Hein.
Est-ce que ça ne serait pas un peu Molotov qui aurait peut-être aussi... initier ce type de nouveaux usages.
C'est possible. Après, c'est un ensemble de choses. Hein. On l'a dit encore une fois, il y a plein de services de SVOD qui sont arrivés, le dernier étant Disney+. Donc, les gens ont pris l'habitude de consommer de façon délinéarisée, c'est-à-dire quand ils veulent, ce qu'ils veulent, où ils veulent. Et du coup, on n'a plus la... Alors, c'est pas tout à fait vrai. En audience, le live des télés reste très fort, mais de plus en plus, les gens consomment des contenus qu'on appelle replay, sur tout support et à tout moment. Donc, c'est vrai qu'au niveau des habitudes, ça a complètement bouleversé les habitudes des gens. Malgré tout, je vais quand même rappeler quelques grands chiffres des opérateurs. Ils disent, en fait, ces habitudes-là, elles sont très liées à des moments de vie. Par exemple, on a remarqué que les célibataires et les jeunes n'ont pas de télé, n'ont pas de box TV. Donc, ils vont regarder essentiellement sur leur smartphone ou leurs ordinateurs. S'ils se marient, s'ils se mettent en couple, s'ils ont des enfants...
Ils achètent une télé.
La première chose qu'ils font... alors, ils achètent une télé et ils prennent le décodeur TV avec.
Ah ouais, tiens, c'est rigolo ça.
Donc,
c'est vraiment un produit familial, on va dire.
Ouais, la télé et le décodeur TV, déjà, ne sont pas forcément séparés, mais plutôt, ils sont consommés ensemble et restent au cœur de la cellule familiale.
Tiens.
Donc, est-ce que dans 10 ans, ça aura changé? C'est probable, parce que ces gens qui ont été célibataires et jeunes, qui se sont passés de télé, vont peut-être quand même finir par garder ces habitudes-là, même s'ils ont des familles. Pour le moment, on est sur ces moments de vie-là.
Ouais.
Ça reste niche.
Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est peut-être aussi le désamour de la télé, linéarisée traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'attendent plus 20 heures pour regarder les infos. Il y a plein de gens qui n'attendent plus 21 heures pour regarder leurs films. Aujourd'hui, grâce au replay et puis surtout grâce à Netflix, à Amazon Prime Video, il y a tellement de choix en fait, de programmes qu'on peut regarder quand on veut, que c'est aussi peut-être un désaveu de la manière dont on regardait la télé et dont on regarde la télé aujourd'hui.
Oui, alors il reste quand même quelques grands... Les retransmissions de football, les Coupes
du
Monde...
Oui, bien sûr.
Ça reste des événements qu'on ne pourra...
Oui, il y a des événements fédérateurs, The Voice, voilà. Par exemple, enfin, des trucs comme ça.
Et les gens ne pourront retrouver cette force-là d'expérience qu'avec le direct. Mais effectivement, c'est de plus en plus réduit. Et alors, on pourrait ajouter aussi que c'est un peu de la faute des opérateurs, s'il y a un désamour en quelque sorte pour les box TV, parce qu'ils n'innovent plus. En fait, à part Free, qui a tenté quelque chose de très osé et un peu cher avec sa Freebox Delta, avec une enceinte de Vialet...
10 gigas voilà. Sur le réseau, mais on va parler des box réseau tout à l'heure.
Mais malgré tout, aujourd'hui, les opérateurs, ils font quoi? Ils achètent une box toute faite et ils mettent leur nom dessus. Il faut être très clair, en fait. Ils ont clé en main des box, ils se prennent même plus trop la tête à avoir leur propre système d'exploitation. Donc Bouygues Télécom et Free ont été les premiers à sortir des box Android TV. Donc aujourd'hui, c'est coûteux, pénible à entretenir. Ça dure des années, une box, en fait. Il faut la réceptionner, la renvoyer, la réparer. Ensuite, il faut la recycler. Il y a des contraintes environnementales qui sont quand même importantes aujourd'hui. C'est beaucoup d'ennuis, en fait.
C'est beaucoup d'argent aussi.
C'est beaucoup d'argent, beaucoup de soucis.
Parce qu'un opérateur qui a des millions et des millions d'abonnés est obligé de commander des centaines de milliers de box. Donc, c'est une box, ça coûte quoi? 100, 200, 300 euros? C'est beaucoup d'argent. Donc,
Avec... très peu de chances d'arriver à se démarquer des autres.
Bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, on va dire les standards de la box TV, c'est quoi? Elle est 4K. C'est un minimum. Même quand la télé n'est pas de 4K, les gens, ils veulent le décodeur 4K. C'est souvent Dolby Atmos au niveau du son. Et après, comment on fait la différence? Parfois, il y a une enceinte vocale qui est dedans.
Avec
des usages,
bon,
quand même. Il y a souvent maintenant un assistant vocal. Il y a que Bouygues qui l'a pas fait. Orange, SFR et Free ont leur propre assistant vocal. Ça devient incontournable. Mais en dehors de ça, comment vous vous différenciez?
Malgré tout, il est important pour l'opérateur de garder cette box parce que il garde aussi le client en quelque sorte. Et il reste maître en quelque sorte de ce qu'il lui propose sur la box, parce que quand vous allumez la box, eh bien, vous avez une petite image de présentation avec des informations qui sont poussées par l'opérateur. S'il veut vous faire découvrir une nouvelle chaîne, s'il veut vous faire découvrir un nouveau service, ça peut même être une promotion, par exemple. Si demain cette box n'est plus là, et si tout passe par l'OTT, eh bien, en fait, il va perdre ce lien-là, non?
Oui. Alors c'est une perte de pouvoir.
C'est peut-être là la clé du problème.
Ouais, à plus d'un titre en fait. Donc perte de pouvoir, mais perte aussi de revenus, parce que en fait quand ils proposaient des contenus, ils percevaient une partie des revenus quand c'était des contenus SVOD ou des chaînes. Et ensuite, il y a quand même la publicité segmentée qui arrive, donc avec des pubs personnalisées pour les gens, où là les opérateurs ont peut-être récupéré de l'argent et du pouvoir. Mais effectivement, c'est un peu une démission quelque part face aux constructeurs TV. On peut l'interpréter comme ça.
La publicité segmentée, c'est quelque chose qui est assez intéressant et que seul l'IPTV peut proposer, crois bien.
Oui.
C'est que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ça va arriver. Je crois qu'il y avait des problèmes de législation.
Oui.
Là, visiblement, tout le monde est d'accord et on va consommer de la publicité différemment bientôt.
Oui, alors ça devrait passer normalement au mois de juillet, donc ce mois-ci. Donc il va s'agir de personnaliser en fait les publicités vis-à-vis du public. Alors, on connaît tous les campagnes de pub nationales. Normalement, jusqu'à maintenant, une pub pour un fabricant de boissons gazeuses passait et toute la France regardait la même pub.
Nous, on regarde le même programme, on a la même publicité au même moment.
Exactement.
On est d'accord.
Et là, ça va être un peu comme sur le web où on peut déjà personnaliser les publicités suivant le profil d'internaute qu'on a. C'est du ciblage publicitaire. Il va s'agir essentiellement de s'adapter à l'origine géographique. En fait, le lieu, ça va être ça le principal critère. Donc évidemment, si vous êtes en Corse et qu'il fait hyper chaud, peut-être qu'on va vous pousser des pubs pour des glaces, alors que si vous êtes, bon je vais être un peu caricatural, dans le nord de la France, peut-être que vous n'aurez pas la même météo et on va vous...
C'est pas moi, pour une fois c'est pas moi, j'aurais pu la sortir celle-là, mais c'est pas moi, c'est Amélie, hein, attention.
On va vous proposer des frites, j'en sais rien, bon,
oui.
Voilà.
D'accord. C'est vrai.
Pas mais, du tout cliché.
Donc ça veut dire que la publicité ne sera pas forcément la même par rapport à l'endroit où je me trouve. C'est
voilà.
Ça, hein.
Donc, alors,
et ça va peut-être aussi apporter des annonceurs locaux.
Exactement.
Aussi.
Donc, petite rectification, il est possible de le faire quand même avec la TNT et aussi l'IP et aussi, pardon, d'autres moyens. Voilà, tout simplement parce que la TNT, par exemple, on a des moyens au niveau des antennes, des radiofréquences, de savoir dans quel lieu vous vous trouvez. Ça sera moins fin. Ça sera vraiment des plaques géographiques départementales ou.
Et puis il y a aussi un autre atout aussi de la télé sur les box, c'est que les opérateurs arrivent à avoir une audience très précise des chaînes que vous regardez. Alors que via la TNT, vous savez, c'est Médiamétrie qui fait ça, avec un boîtier qui est sur un panel représentatif de téléspectateurs, qui espionne un petit peu les usages de 1000 ou 10 000 personnes. Là, avec la box de votre opérateur, alors tout ça est anonymisé.
Oui.
Par exemple, moi, je me mets sur la une, je ne sais pas, moi, mon opérateur...
Et on connaîtra vos habitudes de consommation.
Exactement.
Donc, en plus de la géographie de votre adresse, mm-hmm. il y aura vos habitudes de consommation. On saura, par exemple, si vous êtes fan de foot, si vous êtes fan de cinéma. Et évidemment, ça va être plus facile de pousser des contenus.
Il ne faut pas crier au loup. Hein. Je ne pense pas que ce soit forcément un aspect négatif pour le...
Le consentement éclairé de l'utilisateur sera demandé. Hein.
Oui, voilà.
On est libre de le refuser.
On pourra accepter, un peu comme les cookies qu'on accepte sur votre ordinateur. Mais je pense que c'est pas forcément négatif. Le fait finalement d'avoir de la publicité qui sera plus ciblée, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Il y a de la publicité qui peut plus me correspondre et m'apporter quelque chose que d'avoir, je sais pas moi, des pubs sur des sujets qui ne me correspondent pas finalement.
En tout cas pour l'annonceur, ça serait intéressant parce que sur le web c'est souvent déclaratif. Finalement, les profils sont parfois faussés. Mm-hmm. Parfois on a un mineur, on croit parler à un adulte. Là, ça sera beaucoup plus fiable. Les données.
Oui.
Et alors,
sauf qu'on ne saura pas qui regarde la télé. C'est ça la grosse différence.
Oui, mais on connaîtra le profil de la famille.
Oui, voilà.
Du foyer.
Ça sera le profil de la famille.
Ouais,
et non pas la personne qui regardera la télévision. Mm-hmm. C'est ça la limite, en fait, de cette télé segmentée qui arrive là bientôt. Hein,
alors,
la publicité segmentée.
Les tests et les campagnes pour recueillir le consentement des utilisateurs, c'est la rentrée. Et probablement, ce sera 2021, en fait.
On revient juste une seconde, Amélie, sur cette expérience Bouygues de télévision donc, qui est subventionnée par l'opérateur. Hein. On n'a pas parlé du modèle économique, mais la télé coûte une cinquantaine d'euros et vous vous engagez en échange de ces 50 euros. Alors, vous recevez une télévision de différentes tailles, tout dépend combien vous donnez, et vous vous engagez après à rester chez l'opérateur pendant 2 ans, en gros, hein, avec un abonnement à 40 euros par mois. Bouygues a tiré le premier. SFR est allé un petit peu plus timidement. Grégory Rabuel, le PDG d'SFR, a été mon invité il y a quelques semaines de ça. Il propose aussi une télé subventionnée, mais sans appli SFR pour l'instant. D'accord ? Mais quand on va voir Orange ou Free, est-ce que tu leur as posé la question ? Est-ce qu'eux aussi s'intéressent à ça ? Est-ce que demain, chaque opérateur pourra avoir son offre de télévision connectée ou de télé subventionnée ?
Pour le moment, ils n'ont pas réagi. Alors maintenant, il y a une conférence la semaine prochaine avec une nouvelle box de Free, mardi prochain. Peut-être qu'il y a une énorme surprise de ce côté-là. Peut-être qu'ils vont s'aligner, on n'en sait rien. Moi, je pense que c'est un modèle qui est amené à se conforter et à devenir un standard. Je pense que tous les opérateurs vont finir par y arriver. Il y a eu des précédents. Mm-hmm. Ils ont essayé, par exemple, de vendre des barres de son avec leur box TV. Ça n'a pas tant marché que ça. Maintenant que l'innovation n'est plus technologique, ils sont obligés de s'allier. Et l'alliance avec les constructeurs télé, elle est logique, je trouve, parce que c'est tout un ensemble, en fait. Donc, moi, je vois bien ça s'installer comme un standard.
Est-ce qu'Orange, demain, pourrait proposer une offre de télé subventionnée
Je pense que ce serait possible.
Ce serait possible,
ouais,
aussi.
Oui,
alors c'est vrai, on est dans l'attente de cette annonce de Free. Hein. On a reçu une petite invitation il y a quelques heures de cela. Ça sera à suivre sur 01 TV, bien sûr. Hein. On découvrira cette offre-là. Qu'est-ce qu'on sait de ce que va annoncer Free dans quelques jours ? Amélie, on a des informations.
Oui,
est-ce que ça a fuité
pour
un
une
peu
fois sur l'invitation?
Parce qu'en général, Free arrive bien à garder ses secrets. Hein.
Oui, alors je trouve de moins en moins quand même.
Comme Apple, finalement.
Alors il y avait un petit hashtag V8 pour une fois. D'habitude, il ne dit rien. On n'est pas censé savoir que c'est une box qui va être dévoilée. Mais là, vu qu'il y avait marqué V8, on a tous compris. C'est le nom de le numéro de la version de la box. Donc, on avait la Freebox V7 pour la Freebox Delta. Et là, on sait donc du coup que c'est une box, déjà. Et alors, il y a eu des fuites parce qu'en fait, Netflix a mis en ligne sur son site des informations par erreur, temporairement. Donc, on a eu accès... on a eu accès à quelques infos la semaine dernière. La semaine dernière, il y a 15 jours déjà, je ne sais plus.
Oui, je crois que c'était il y a 15 jours.
Oui. Et donc, on sait que c'est une box dont le décodeur TV sera 4K. Alors, ce n'est pas une énorme surprise.
Non. Elle s'appellerait la Freebox Pop, non ?
Freebox Pop.
Alors, on
ne
sait pas si c'est un nom de code ou si c'est son vrai nom.
Alors, non, parce que le nom de code, c'est encore autre chose. C'est une suite de chiffres et de lettres. Donc, il semble bien que ce soit le nom officiel de la Freebox Pop, à moins qu'il décide au dernier moment de le changer parce que ça a été dévoilé, ce qui m'étonnerait quand même. On savait déjà le nom de la Freebox One et Freebox Delta déjà aussi avant la sortie.
Oui, ça avait fuité aussi.
Ouais. Donc, son Dolby Atmos, là encore, vraiment pas une surprise. Après, le débit du modem offrirait plus de 2,5 gigabits par seconde, ce qui serait très très intéressant parce que a priori ça sera une offre d'entrée de gamme. Donc on pourrait avoir énormément de débit pour pas cher, en gros. Donc
en moins fibre optique, bien sûr.
Oui, et en FTTH, c'est-à-dire fibre optique jusqu'au bout de l'abonné. Ça sera moins élevé que ce que promet la Freebox Delta à 10 gigabits, mais ça reste très supérieur à ce que proposent les autres opérateurs qui vont jamais au-delà de 1 gigabit.
Sauf Orange qui a cette petite...
Oui, alors Orange dit 2 gigabits cumulés, mais ça veut dire que...
En fait, vous avez deux sorties de 1 gigabit chacune, c'est
voilà,
ça.
Voilà,
hein,
donc si vous branchez directement, par exemple, votre PC à votre modem, vous pouvez brancher deux PC qui vont chacun recevoir 1 gigabit, mais ils n'auront pas 2 gigabits sur un seul appareil.
D'accord. Comment ça va Est-ce qu'il y a de grandes innovations qui vont arriver chez les opérateurs, hormis la 5G, qui est vraiment le chantier qui va arriver dans les mois qui viennent en matière de box, de connexion fixe à la maison, il y a des innovations, une montée en débit. On parlait tout à l'heure de Free avec ses 10 gigas. On voit que la plupart des opérateurs plafonnent à 1 giga. Est-ce qu'on va avoir une augmentation des débits? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues?
Alors, sur les
de
débits,
la part des opérateurs?
Oui. Sur les débits, forcément, un jour, on arrivera tous à un modèle à 10 gigabits. Ça, je pense que c'est sûr. Après, sur la dématérialisation, on va aller encore plus loin, je pense. Donc, on parlait de la disparition hypothétique, mais inéluctable, je pense, des box TV à terme. On enregistre déjà les programmes dans le cloud. En fait, les opérateurs, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ne proposent plus de disque dur avec
bien
leur
sûr
box TV.
Donc, cette SFR box TV... était l'un des tout premiers, d'ailleurs, à le proposer.
Tout à fait. Donc, cette box TV, c'est inéluctable. Elle va disparaître. On gardera toujours un modem, c'est important. On ne peut pas se connecter sinon. Donc, mais il va être encore plus compact qu'avant. Peut-être que les opérateurs français vont redevenir que des simples tuyaux, ce qu'ils sont déjà dans d'autres pays, en fait, où les gens sont libres de s'équiper comme ils veulent. Nous, on avait vraiment une spécificité française.
C'est compliqué à dire, ce truc-là.
de cette histoire avec Free, qui a inventé ce modèle. Donc, pour nous, les opérateurs étaient plus que des tuyaux. Là, il y a peut-être un danger qui ne redevienne que ça, et surtout par rapport au modem, peut-être que ça, c'est Orange qui réfléchit à ça. On aura à terme des réseaux virtuels à distance, donc on partira en vacances et on pourra se connecter sur sa box à distance. On pourra tout gérer partout où on ira, et puis peut-être qu'on aura une petite clé tout simplement. On arrivera au bureau, on branche sa petite clé sur l'ordinateur et on a son environnement
comme le même que celui de la maison, par exemple.
Voilà, je pense qu'on va progressivement aller vers ça.
C'est passionnant tout ça.
Oui.
Et ça arrive. Mais c'est vrai que les opérateurs veulent garder un petit peu la main mise sur la télévision, qui est peut-être le dernier écran sur lequel ils ont encore une certaine influence. Et on le voit, c'est important pour eux. C'est peut-être pour ça, vous l'avez compris, que les téléconnectés avec les applis des opérateurs, c'est pas pour tout de suite finalement. Les box ont encore quelques belles années devant elles. C'est la conclusion en quelque sorte de ton papier qu'on peut retrouver sur 01net. Merci beaucoup Amélie.
Merci.
Amélie Charnay, donc, que vous pourrez suivre donc dès la semaine prochaine sur 01net.com pour découvrir cette nouvelle Freebox. Voilà, on verra bien. Et on est en train de vous préparer une petite interview du patron de Free, hein, Xavier Niel, hein, qui sera dans l'une de nos émissions pour nous présenter tout ça. Merci beaucoup, Amélie.
À bientôt.
Et ce De quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous, comme chaque dimanche matin sur RMC à la radio, mais aussi sur 01tv.com, sur la chaîne YouTube de 01tv et sur les box, justement. Tiens, on parlait de Freebox, chaîne 231, tiens, pour voir 01tv. À très bientôt et merci de nous suivre en tout cas.
De quoi je me mêle sur RMC et 01tv.